On va pouvoir commencer un entretien avec l'immense dessinateur Francis Mas, artiste complet. Mas, qui est donc dessinateur de bande dessinée, mais qui est également peintre, sculpteur, et qui est peut-être, à mon avis, injustement méconnu. Il a été très présent pendant un certain temps sur tous les supports, toutes les revues de bande dessinée. Et puis pendant un moment, il a disparu. Il va peut-être nous expliquer pourquoi.
Non, vaut mieux pas. Non. Sinon, tout le monde va avoir la larme à l'œil. Et bon, j'aime pas les histoires comme ça. Tristes.
D'accord. Alors, Mas est un univers assez délirant. Un humour débridé que l'on pourrait qualifier de nonsense. Tu vas peut-être nous donner une explication.
Avec un E à la fin, parce qu'il ne s'agit pas d'un mot français qui lui ressemble, qui est le non-sens. Ça n'a même rien à voir. En français, le non-sens, c'est la chose qui n'a aucun sens. Tandis que le nonsense, c'est pour moi la forme la plus aboutie de l'humour, quoi, de l'humour en général, quoi, de l'humour universel, voilà, qui a une origine évidemment anglo-saxonne, mais enfin bon, qui n'est pas interdit d'être utilisé aussi par un Français comme moi, quoi. Voilà, donc bon, c'est le type d'humour que j'ai choisi parce que bon, je me suis aperçu, par rapport à la science. Je me suis aperçu qu'il y avait certains usagers d'humour dans le monde scientifique, mais enfin bon, ils n'utilisaient pas le même type d'humour que j'apprécie. C'était plutôt quelque chose d'un peu franchouillard, très proche du calembour. Et bon, donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un créneau. Et donc j'ai fait le bouquin à ce propos-là, le bouquin dont on peut voir les originaux là exposés à côté. Alors, si je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà eu connaissance ou eu dans les mains un album de Mas, mais j'aimerais bien qu'il signale pour non. Ah ouais, quatre, ouais, génial, ouais.
Bon. Si, il y en a. Alors, pendant les années 70, c'est vrai que quand Mas arrive sur le marché, on est en pleine ligne claire, on raconte des récits d'aventure, et là, on a beaucoup de trames. On a des histoires qui ont l'air un petit peu compliquées, qui parlent de science surtout, aussi bien, tout ce qui peut être la théorie.
La science, je l'ai abordée franchement qu'avec les deux du balcon, c'est-à-dire à la période où je travaillais, pendant laquelle je travaillais à suivre, c'est-à-dire dans les années 80. Dans les années 70, j'étais dans toutes les grandes revues de l'époque, hein, qui sont maintenant devenues les revues de référence. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à Actuel, ensuite ça a été Fluide Glacial. J'étais au tout début de Fluide Glacial. Hein, j'étais presque le lieutenant direct de Gottlieb. Et il y a eu donc
L'écho des savanes, Charlie Mensuel,
Harakiri. Alors je ne sais pas si ouais bon là il n'y a pas de synchro forcément, il n'y a pas de synchro entre l'image que vous avez derrière et puis ce qu'on raconte, hein. Bon, vous essayez de le faire la synchro vous-même, hein, parce qu'on n'a pas pu la faire.
Oh, je pense que le mieux c'est
ça. Ce qu'on voit par exemple, ça c'est une de mes grandes histoires de Charlie. Ça c'était publié dans Charlie.
Je crois que le mieux, ce sera de laisser défiler des images et d'intervenir si tu as envie d'intervenir.
Ouais. Non, mais là, je...
Donc...
Claude parlait de l'utilisation des trames. C'était le procédé, mon procédé graphique de l'époque parce que on avait des journaux qui avaient une impression, un clichage au trait. Et pour obtenir des gris qui soient encore supportables à l'impression, c'est-à-dire on avait des papiers qui étaient vraiment très cheap, hein, donc qui épongeaient. Donc pour avoir des gris supportables, on utilisait ce qu'on appelait à l'époque les trames lettres à 7 qui se collaient sur l'original. Donc du fait qu'elles étaient, elles, au trait, Le gris final du journal imprimé était, bon, je dis pas, était joli, mais était supportable. Voilà. D'où le. Maintenant, l'équivalent, c'est fait par Photoshop. On peut choisir sa trame pour obtenir les mêmes effets. Bon, on a beaucoup plus de choix maintenant du fait de l'informatique.
Alors, c'était quand même à contre-courant de toutes les modes que de prendre d'abord pas de personnage héroïque, d'avoir ouais. peut-être un même personnage récurrent qui vient avec un chapeau.
Voilà, le pire, c'est que j'ai
et un manteau.
J'ai même jamais réussi à lui trouver un nom. Moi, je l'appelle moi-même l'homme de masse, hein, parce que je ne sais pas comment le qualifier autrement. Quoi, voilà. Si, celui-là, par contre, ceux-là, ils ont un nom, ils s'appellent Diderot et D'Alembeau. Et non pas, comme on pourrait croire, Diderot et D'Alembert, comme ça. Comme malheureusement ça s'est retrouvé imprimé par je ne sais quel concours de circonstances dans la nouvelle encyclopédie sur une page. Mais voilà, bon, peut-être que là dans les trois qui ont vu un album de maths, peut-être qu'il y en a qui connaissent ces deux personnages.
Oui, donc justement Diderot et D'Alembeau, ça permet de faire de la vulgarisation scientifique.
Ouais, mais enfin moi c'est pas mon propos. Hein. Moi j'ai pas la prétention de me présenter comme un vulgarisateur, j'en ai pas du tout la compétence. Simplement, je suis un artiste libre qui a envie de s'exprimer librement sur n'importe quel sujet. Bon, les sujets qui nous sont traditionnellement dévolus, c'est la politique, la sociologie, des sujets comme ça. Bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas élargir notre champ de travail, quoi. Et donc, je me suis dit, comme j'ai toujours été concerné par la science, je me suis dit, bon, ben, je vais faire un album sur des sujets scientifiques, sans plus, mais sans du tout d'ambition de vulgarisation. Bon, il se trouve que ça peut en être, parce que les sujets que j'aborde sont des vrais sujets. Je n'édule pas. Je le fais d'une manière relativement référencé, et donc je pense que ça a suscité, enfin bon, les retours que j'ai pu avoir, surtout dans le monde enseignant, je me suis rendu compte que ça a suscité un intérêt de curiosité pour ces sujets-là, et voilà, les retours étaient plutôt dans un sens où, à me faire conclure que finalement c'était peut-être aussi de la vulgarisation.
Les deux du balcon, il y a toujours un naïf quand même.
Et oui, mais ça, savant... ça, c'est un procédé narratif bon, que tu connais bien. C'est chez les duettistes, il y a l'intelligent et le crétin. Quoi. Bon, voilà, bon, c'est un procédé traditionnel.
Le travail de trame est quand même assez complexe, puisqu'ici, on nous explique un petit peu la relativité. Il y a des...
On explique le vélo.
Là, on nous explique le vélo.
La relativité à travers Montes et Faustocopy, bon, on est quand même loin du domaine de Roland Lehoucq. Hein, il y a un léger décalage. Mais bon.
Le vélo, c'est celui d'Einstein.
celui-là, là. Oui. Oui, c'est possible. Ouais. On vient de sauter sur une image et les croires on traite un petit peu le sujet dans une expo là à côté qui traite de la théorie du chaos et etc. Alors donc là, pas mal, l'image est déjà passée. Là par contre
Je reviens en arrière.
Cette image là traitait d'une expérience qui a été très importante dans les années 80, c'est l'expérience d'Alain Aspect qui m'a semblé être une expérience charnière dont il fallait absolument parler, même si le public de BD n'était pas du tout formaté pour la comprendre. Mais enfin bon, il y a un certain nombre de personnes aussi qui ont réagi par rapport à cette histoire et surtout par rapport à ma façon de la présenter, qui était quand même très 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 personnelle, très cartonnée. C'est très cartoonienne, hein, si je peux me permettre cette invention langagière. Bon, là, c'est toujours la série des deux du balcon qui traite quand même de sujets très physiques, hein, parce que là c'est les symétries, tout un domaine considéré habituellement comme, comme relativement pointu. Et là, bon, j'essaye toujours de faire correspondre, des images dont la lecture est évidente. Voilà.
En fait, là, on a droit quand même des explications.
Là, tu peux revenir sur celle d'avant, là.
Oui.
C'est après, alors. C'est celle où il y a l'éléphant, sur la briseur de symétrie. Celle qu'on regardait hier. Non, elle est après. Elle n'est pas dans la suite.
Ah, mais si,
c'est celle-là. Voilà. Bon, là je mets en image une brisure de symétrie. Voilà, c'est évident parce que bon, il y a la symétrie, c'est deux éléphants évidemment qui sont en équilibre. Et bon, l'éléphant, on décale le point d'appui et l'éléphant tout d'un coup n'a plus une masse suffisante pour créer l'équilibre avec un oiseau qui va se poser en face. Bon, c'est une image toute simple, accessible par tous les enfants, qui permet de comprendre quand même ce que peut être la symétrie et surtout la brisure de symétrie.
Donc, pour ce qui est de ça, c'est qu'on voit souvent dans les deux du balcon les résumés, enfin le titre de l'ouvrage qui a été consulté. Pour écrire cette histoire.
Je mets en référence toujours à la fin. Et bon, ce sont toujours des auteurs sérieux, sauf une histoire où j'ai traité des froids extrêmes et dont j'ai attribué la source à Jack Frost. Alors bon, les spécialistes en BD ont reconnu le personnage de Little Nemo. Bon, Little Nemo étant une de mes références en dessin, enfin une de mes grandes références de culture pour sa poésie, son monde du rêve, etc. Voilà.
Alors bon, là, c'est pas, je viens de, on l'appelle l'avalanche, là, qui a été le retour.
Alors là, au niveau graphique, là, ce que je peux ajouter, c'est que l'utilisation des trames s'est faite un petit peu par un système décalé, parce que j'ai travaillé sur des trames de graveurs du 18e, 17e, 18e, bon, qui ont évidemment une qualité graphique complètement différente des trames mécaniques, les tracettes. Alors donc, mais mon travail, c'est exactement le même dans le principe, c'est-à-dire je faisais à l'époque de l'image de synthèse avant la lettre, hein, mais par collage, je découpais, je collais, voilà. Bon, celle-ci, c'est une autre vision d'un travail avec des trames. Mais là, on voit là dans l'horizon, ce sont des trames dégradées. Enfin, pour les graphistes, là, s'il y en a un dans la salle. Voilà.
Alors, on a aussi des envers, endroits, ça part dans toutes les directions. Ça, c'est le récit, on l'appelle l'avalanche. C'est le seul, le grand album en une seule histoire, alors que d'habitude, ce sont des histoires plutôt courtes.
Oui, ça, c'est un album un peu d'anticipation, parce qu'on n'était pas encore complètement rentré dans l'ère de l'informatique. Et là bon, je raconte le monde informatique. Dans un univers pseudo-science-fictionnex, on voit des monstres comme on voyait à l'époque. Enfin, on en voit toujours autant, je vois des monstres, bon, des monstres, voilà, des monstres de science-fiction, quoi. Et dans un univers, donc là, en l'occurrence, c'était l'univers de Piranesi, qui était un grand artiste italien de la Renaissance. Là, donc le décor des deux du balcon, c'est Canaletto, qui lui aussi a fait toute une série sur Venise en gravure. Okay. Pour moi, c'était un matériel excellent parce que c'était du noir et blanc au trait, exactement dans ma technique graphique, et ça me permettait de me tomber des décors avec une efficacité déconcertante, toujours avec des ciseaux et un peu de colle. Donc, enfin bon, les images qui sont raccord, elles sont quand même de moi, parce que bon, Canaletto n'a jamais fait ni de plongée ni de contre-plongée comme ça sur les balcons vénitiens. Alors cette histoire là traite de la néoténie. Non, c'est ça. Oui, c'est de la néoténie. Bon.
Qui est quoi?
Qui est la la particularité de certains organismes de conserver les caractères de la jeunesse à l'âge adulte. Et donc j'ai illustré ça par rapport à l'évolution graphique de Mickey chez Walt Disney, qui a commencé très adulte, avec un nez proéminent, bombé, etc. Avec des traits d'un personnage mûr et qui, au fil du temps, s'est mis à rajeunir, les yeux vont agrandir, le nez s'est rétréci, etc. Bon, donc j'explique par cette évolution. Ça c'est pas moi qui l'ai remarqué, hein. C'est Stephen Jay Gould qui a fait un bouquin qui s'appelle Le pouce du panda. Et qui parle de ça. Moi, j'ai repris. Je trouvais que, bon, par rapport à la BD, c'était inespéré d'avoir un scientifique qui prenne Mickey comme illustration d'un phénomène comme ça, un phénomène très particulier de biologie, quoi. Et donc, moi, j'ai extrapolé un petit peu Stephen Jay Gould parce que je l'applique aussi aux objets. Tu peux revenir là où voilà. Les objets du bas sont eux aussi frappés de néoténie. C'est exactement ce qui se passe dans notre univers de consommation. Il y a un certain type d'objets se retrouvent avec les caractères de la néoténie. Là, je vois le téléphone, je vois des tas de petits objets comme ça qui ont ces formes rondes, pouponnes, qui sont les caractéristiques de la néoténie. Alors là, moi, je joue avec Tintin devenant non néoténique, etc. Un requin devenant néoténique, tout ça, c'est les représentations qui sont censées être le musée du Mickey. Et bon, je conclus sur aussi un phénomène néoténique. Accessoire et architectural avec l'arc de triomphe à la couche, qui en fait n'est pas un phénomène néoténique. Mais bon, je peux m'autoriser un petit peu ce que je veux. Je suis libre.
C'est vrai. Il y a même une question d'évolution, là. C'est qu'ensuite, ce sont les bouées qui vont prendre la place de l'homme.
C'est vrai, c'est de la science-fiction. Oui, non. Parce que justement, bon, à cette époque-là, je publiais. Je publiais dans différents journaux, donc, cette histoire-là est parue dans Métal Hurlant, et il y avait beaucoup de dessinateurs qui me reprochaient justement le côté gonflos des BD que je publiais dans la suivre. Donc, leur argument scientifique passait pas du tout. Faut dire que moi, j'étais complètement décalé par rapport, évidemment, aux publications de l'époque. Et le fait que je devienne officiellement le dessinateur gonflos, ça m'a donné l'idée de ce scénario où l'homme est remplacé par des bouées, par la suite d'un incident, enfin bon, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais qui justement entretiennent leur survie en lisant des bouquins gonflos. Qui les gonfle, donc. Et donc, voilà, elles arrivent à survivre à l'homme de cette manière-là. Enfin, là je résume, bon, c'est plus développé que ça.
On n'aura pas le temps de résumer toutes les histoires.
Voilà. Bon. Dans celle-là, je joue avec G, que j'aime bien. C'est ma constante favorite, la constante G. Bon, j'ai un petit faible pour elle, et j'aime bien la triturer un petit peu dans tous les sens. Et là, bon, j'avais prévu comme argument de l'histoire de la faire travailler non pas en verticale comme elle travaille habituellement avec nous tous, mais en horizontale. Et donc j'ai imaginé la vie d'un personnage qui est censé être moi se développant comme ça avec une constante G horizontale. Alors c'est assez sympa parce qu'il se retrouve éjecté du ventre de la maman à l'horizontale, il traverse la fenêtre en face et on le voit en train de partir en orbite comme ça autour de la Terre, hein, parce que bon, son destin c'est forcément d'orbiter autour de la Terre, hein, si la constante G s'exerce de cette manière là bon, donc il part en orbite, quoi, en parallèle avec le sol. Alors là, bon, il fait ses études évidemment de façon très très furtive, hein.
Qui montre aussi que peut-être les études sont passées très vite.
Dans mon cas, pas plus qu'en fait que la normale. Bon, je les ai subis comme tout le monde, normalement, malheureusement. Bon, j'aurais aimé qu'elle puisse se régler comme lui, mais enfin bon. Alors donc, au cours de ses passages à travers les maisons, il récupère des tas d'objets dont il se fait une coque. Là, on voit une bétonnière, un joug de bœuf. Il y a de tout. C'est assez surréaliste. Hein.
Et voilà, on finit quand même par des questions métaphysiques.
Oui, bien sûr. Ben là, ouais, des métaphysiques et puis un petit peu quand même qui s'acoquine s'acoquine. Oui, il y a deux C. Hein. Vous avez peut-être lu le programme, mais bon, ça coquine, c'est écrit avec deux C. Qui s'acoquine un petit peu avec la sexualité. Ben là aussi, là, enfin dans celle-là, on passe un peu du coq à l'âne. Hein. Mais là, dans celle-là, je traite de l'éthique.
De la bioéthique.
De la bioéthique, oui. À propos, je me souviens plus, c'est à propos des mères porteuses, hein, je crois, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Là, il y a par exemple une discussion sur le sommeil.
Oui, ben là, justement, on est encore dans la sexualité. Hein. Bon, c'est pas du tout mon domaine, mais bon, je sais pas si son choix était orienté, mais là, je vois, il y a encore quelque chose qui a rapport à la sexualité, parce que je vois le personnage qui bande, et tout le monde le sait pas, mais on bande sans s'en rendre compte au cours du sommeil paradoxal. Les deux sexes bondent avec l'organe correspondant, et voilà. C'est un fait reconnu. Hein. Alors moi, je le mets en scène.
Alors d'autres questions scientifiques. On aura la cartographie, qui est quelque chose d'important.
Ouais.
Une vision du monde qui correspond. Bon.
Alors ça c'est un sujet. Ça, c'est un sujet qui m'a été soufflé par les géographes qui sont amusés. À l'Institut de géographie, je ne sais plus qui c'était, c'est vieux, mais qui sont amusés à faire des représentations de la France du rugby, par exemple. C'est-à-dire les boursouflures qui se positionnent sur les régions. De rugby, et donc suivant la pratique du rugby. Moi j'ai extrapolé ça suivant l'appréciation des régions pour ce cas-là, c'est la perception qu'on a de Paris suivant les régions. Voilà. Alors par exemple depuis ma région, là, Cucuyon, tu peux revenir avant, là, depuis ma région où se trouve Cucugnan, Paris, ça n'est pas une ville. Paris, c'est un ensemble de peuples qui s'appelle les Parisiens, qui n'a pas réellement de contours. Hein. Au-dessus de Cucugnan, tous les gens qui y habitent, c'est des Parisiens, quoi. C'est des sortes de Parisiens. Voilà. Par contre, à l'inverse, le Parisien qui est là, dans la vignette de dessous, lui, il perçoit tous ceux qui ne sont pas de Paris. Enfin, déjà, il perçoit les ethnies suivant les arrondissements. Hein. Les Parisiens, c'est comme ça qu'ils perçoivent les ethnies. Puis tout le reste, c'est des ploucs, quoi. Et puis bon, voilà, c'est tout. Alors, différentes sortes de ploucs. Au sud, c'est plutôt des babas. À l'époque, c'était des babas. Bon, voilà. Mais bon, c'est ce qu'on appelle l'anamorphose multipolaire.
Oui, alors, la mare aux pirates, toutes ces histoires de pirates permettent de parler d'économie, de sciences, disons, appliquées.
Oui,
alors là,
j'ai à suivre, 99,9999% des gens du monde de la BD sont totalement étanches à la science. Hein, ça, faut dire les choses comme elles sont. On m'avait dit d'arrêter, mais conneries avec les sujets scientifiques. Alors bon, l'album suivant, j'ai prétexté le fait que j'allais traiter de problèmes de société pour disons m'adapter et traiter de science, mais d'une façon qui permette une lecture plus directe et plus sociologiquement appréhendable. Voilà. Donc là, oui, il y a donc des sujets d'économie.
Bon,
après, je ne sais plus dans ton montage, mais il me semble qu'il y a le sujet de la guerre des étoiles, parce qu'à l'époque, il était très question de ce sujet-là, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Dans ces séries-là, il y a des sujets qui en fait, 30 ans après, sont encore totalement d'actualité. Bon, là, c'est...
Il y a parfois aussi un certain anticléricalisme que l'on peut remarquer. Alors bon, là aussi, oui, c'est peut-être ça, les transports.
Disons, ça, c'est un peu conventionnel pour l'époque. Moi, je bossais à Charlie Arakiri, donc l'anticléricalisme, ça fait partie des meubles. Bon, là, c'est de l'anti-informaticalisme, et là, on n'en est pas... Enfin, on n'en est jamais venu là. Enfin bon, on pouvait être anti-tout, mais bon, ce qui est curieux, c'est que je suis le seul à être anti-informaticaliste. Voilà, alors donc, je faisais se dissoudre l'informatique dans l'eau de mer. Je me posais la question, est-ce que l'informatique est soluble dans l'eau de mer? Ouais, bon, c'est dommage, évidemment, on peut pas.
Non, on n'aura pas le temps de tout voir. Alors, bon, il y a l'antimilitarisme aussi. On ne badine pas avec la guerre non plus.
Oui, bon, enfin, là, c'est un sujet, par contre, un sujet de science-fiction, puisque là, c'est ma seule référence dans tout ce que j'ai fait à un auteur de SF qui est George Orwell, qui a fait justement un bouquin qui est devenu, avec le décalage, complètement d'actualité. Quoi. C'est, bon.
Il s'agit de 1984.
Big Brother, c'est notre grand... On le voit partout, là. Alors là, bon, là, c'est... Oui, bon, là, c'est... C'est la vision... c'est les prémices de la photo vues à travers la bombe atomique. Ça, c'est des illustrations de l'encyclopédie. Voilà.
C'est... Oui, il y a une volonté encyclopédique puisque d'abord on parle de science et ensuite il y a une certaine encyclopédie. L'encyclopédie est en deux volumes qui regroupent à peu près tous les sujets avec des définitions parfois un petit peu curieuses. Il y a une volonté de faire une encyclopédie, de parler de tout dans tes BD.
Moi j'aime bien tous les sujets. Il n'y a aucun sujet qui pour moi est impropre à construire une histoire ou une bande dessinée. Je suis capable, vous me donnez n'importe quel sujet, je suis capable de vous pondre quelque chose, même en une page. Vous me dites, fais-moi un truc en une page ou en trois cases. N'importe quel sujet, il n'y a aucun sujet qui, pour moi, ne présente pas la possibilité. Alors, bon, là on revient donc à Orwell.
Big Brother.
À 1984, là, bon, c'est des bâches. Alors là, oui, ça, c'est le musée de l'homme. Alors, on est toujours dans le domaine scientifique. Et l'homme, bon, est devenu donc un... C'est après la bombe. C'est encore de la science-fiction, c'est vrai. C'est après l'apocalypse, hein, parce que, bon, c'est quand même ce qui nous pend au nez. Il reste un homme qui est montré, là, aux êtres qui doivent nous succéder. Bon, là, c'est pas des bouées. Enfin bon, plus traditionnellement, c'est des êtres avec des tentacules, hein, parce que normalement, c'est par ça que le cosmos est peuplé, hein, par des êtres avec des tentacules. Et donc, il vient tripoter le dernier humain qui a été mis dans une petite boîte en plexiglas, et bon, il se fait engueuler évidemment par le gardien. On touche pas, quoi. Hein, c'est interdit de toucher.
Il y a un côté pessimiste quand même. On a vu tout à l'heure la destruction de la Terre. Non, là, c'est le dernier homme. Ici, c'est l'homme qui devient le robot.
Oui, disons que c'est réaliste, quoi. Bon, on peut coller toutes les étiquettes morales ou psychologiques qu'on veut dessus. Mais enfin, disons que c'est réaliste. Hein, pas que l'homme soit remplacé par des êtres à tentacules, mais que l'homme disparaisse. C'est un scénario assez probable. Hein. Il n'y a qu'à demander au soleil.
Alors bon, pour ce qui est de l'anticléricalisme, c'est aussi le mélange avec l'économie.
C'est quand même une caricature du monde de la pub, parce que bon, là disons que c'est une satire un petit peu de la marchandisation, enfin, du mercantilisation de l'univers religieux. Hein. Bon, si on va se balader à Lourdes, hein, Dieu, c'est vraiment devenu un
marché.
Oui, un marché, voilà, c'est ça. Donc, moi, évidemment, je pousse ça. Je pousse ça en représentant Dieu. Bon, à l'époque, c'était l'époque qui était revenue. C'était la deuxième vague du rock'n'roll, hein, parce que bon, ça s'est paru dans les journaux de la mouvance métal hurlant, donc avec, évidemment... Trombert et Jeannot, tout ça, qui étaient des dessinateurs que j'adorais. Et j'aimais bien faire moi aussi des rockers. Et donc, je trouvais que c'était sympa de faire ma version de Dieu en rocker avec tout le panel de pubeux de la religion qui travaillait dessus, quoi, sur une campagne.
Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on avait évoqué Canaletto. Il y a beaucoup d'architecture dans tes
bandes dessinées. C'est toujours le principe de mon montage de décor. C'est-à-dire que moi, je me construisais des décors comme ça, un petit peu préfabriqués, enfin pour cette série-là. Bon, comme je menais plusieurs activités de front pour gagner ma vie, le temps qui m'était imparti pour faire des BD était de plus en plus court. Alors donc, le fait d'avoir des décors prémontés comme ça, ça me permettait d'aller plus vite, quoi. Voilà. Tout simplement, c'était des paramètres très, très pragmatiques.
Mais il y a une réinvention complète de la ville.
Oui, toutes ces choses-là, ces illustrations-là, se déroulent dans une Venise sèche, quoi, comme dans Les Deux du balcon. Une Venise asséchée qui est carrelée, même. Hey, je vois qu'il y a des gens qui viennent, là. Il y en a quatre de plus que tout à l'heure. Voilà. Bon, ça fait partie aussi d'être sous la ville. Ça, c'est une variation, évidemment, sur Marilyn Monroe. C'est l'Eros Center de cette ville imaginaire. Donc, dans ce bouquin, là, j'ai fait toute une série de voilà, ça c'est la maison de retraite du Limbago Joyeux. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le bouquin. Ça c'est c'est un marathon sédentaire, place Paillasson. Ben là, c'est plus facile, hein, pour les gens d'apprécier des dessins comme ça parce qu'on a le temps de
voir la maison.
Ouais, bon, ça c'est parce que c'est vrai que les BD, elles passent trop vite. Bon, ça, c'est pas terrible. Hein. On zappe. ça, c'est le supermarché de la psychanalyse. Là. Le caddie, c'est un divan. Voilà. Alors, le psychanalyste, il s'assoit
sur... Et là, encore une tour de Babel un peu particulière.
Voilà, mais ça, c'est une illustration de l'encyclopédie. J'arrive même pour les tapettes à souris. Bon, ça, c'est un parc-mètre avec le tribunal des non-paiements automatique. Quoi. Ça marche comme une tapette.
Donc, en même temps, après la science aussi, on va parler plutôt de social. On va dans le quotidien. Et il y a quand même pas mal de bandes dessinées qui essayent de poser les problèmes de la vie quotidienne, les problèmes de la société, toujours d'une manière assez délirante. Bon, ben là, il y a les objets qui sont mis au rebut. Ben,
c'est-à-dire que chaque objet emploie un vocabulaire qui correspond à sa culture. Le vélo parle le langage vélo, l'ordi à moitié pourri parle le langage informatique, et le balai il parle du langage punk. Et je trouvais que c'était la confrontation des langages était sympa à l'intérieur d'un placard. Et bon, en réaction, en retour à ça, il y a le langage de Bécassine, qui est évidemment la maîtresse de maison, la technicienne de surface de la maison, et qui réagit avec son vocabulaire, son vocabulaire Bécassine. Et c'est assez sympa, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup le travail sur le vocabulaire. Enfin, ça fait partie d'un de mes dadas, quoi.
C'est vrai aussi.
Bon, là, c'est une illustration pour un bouquin que j'avais illustré de Jean-Marc Lévy-Leblanc, et qui compilait un petit peu tous ces articles de vulgarisation scientifique. Donc moi, j'ai réagi par rapport à la vulgarisation scientifique. Et sur cette vignette-là, on voit une mamie dans un fauteuil qui est en train de regarder un savant en train d'expliquer la physique des particules. Alors, il explique par rapport aux particules de saleté, hein, que la double action de telle lessive a plus ou moins d'action sur les particules. Alors, bon... La mamie, elle réagit, elle dit quand même, je suis pas contre des émissions un peu pointues scientifiques, mais enfin, il devrait quand même le passer plus tard. Bah bon, c'est ce qu'on appelle du nonsense. Avec un E. Bon, ça, c'est une image. Ça, c'est une image encore de l'encyclopédie. Bon, où il y a un problème de temporalité qui est exprimé par le reflet de deux personnages dans la mer. Bon, si vous retournez l'image, vous voyez ce que ça donne quelques décennies plus tard. Alors, on voit le beau prince charmant qui est devenu un papy acariâtre qui lit son hérisson ou son corner enchaîné, et puis
il y a les enfants,
et puis la mamie qui donne la fessée au petit-fils, quoi. Voilà, c'est le temps raccourci vu par l'optique.
Voilà, bon, question, bon, là, c'est, du temps, pardon.
Bah, oui. Là, c'est encore une réflexion par rapport au temps, hein, parce que les physiciens réagissent beaucoup par rapport au temps. Moi j'y ai pensé avant, à tous les âges, hein, voilà, parce que toutes ces illustrations là correspondent à différentes époques. Alors ça, c'est vraiment les tout débuts, et c'est tu peux revenir avant là. Ça, c'est mon seul personnage un petit peu de robot. Bon, c'est un robot un petit peu hybridé avec Chamallow, quoi. À l'époque, mes personnages étaient comme ça, voilà. Mais alors donc lui c'est la temporalité vue à travers le discours d'un gamin qui est en train d'essayer de bricoler une excuse pour expliquer son retard au surien en général. Voilà. Et donc ça se termine mal pour lui, parce qu'il se retrouve noté sur un carnet noir, et donc on rejoint tout à fait 1984, quoi.
Bon, il y a toujours la question du temps, c'est qu'on est de plus en plus pressé.
La question du temps, voilà. Là, c'est la cinématique, on est toujours en plein dans le sujet du temps. C'est la cinématique d'une famille qui subit une accélération de la vie courante, c'est-à-dire le tempo de la vie courante s'accélère. Tout d'un coup, alors on voit ce que ça donne, et c'est assez bidonnant quand même, quoi. Parce que en fait, le fait que leur tempo de vie courante s'accélère, ça accélère aussi l'immeuble dans lequel ils sont. Et on s'aperçoit à la fin qu'en fait, ils sont en train de disputer une course d'immeuble. Et donc, ça se dispute, comme le sprint est très très serré, ça se dispute à la fin au secouage des paillassons par la fenêtre, etc. Au devoir conjugal, alors ils accélèrent le tempo au devoir conjugal, et puis bon, les bons qu'on a vus pendant toute l'histoire, ils gagnent la course, mais vraiment sur le fil. Donc voilà. Enfin, moi je considère ça, c'est ma meilleure histoire, parce que les concepts que je mets en image, c'est des concepts qui sont pas du tout dans la 2D de la BD. Là, j'introduis la troisième dimension à fond, la quatrième dimension, qui est la dimension du temps, quoi. La quatrième dimension est complètement condensée dans cette histoire d'une façon très 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 appréhendable immédiatement. Pour tout le monde, quel que soit son âge ou sa culture.
C'est toujours une traduction assez délirante de la réalité. On retrouve de toute manière le quotidien.
Parce que là, bon, quand je traite de la vie courante, je suis en plein dans le gras de la réalité. Là.
Voilà, bon.
Du quotidien.
Là, c'est le supermarché de la mort.
Supermarché de la mort, bon, c'est pareil. Bon, tout à l'heure, on voyait une vignette où je réagissais par rapport au marché, à la marchandisation de Dieu, enfin de la religion. Bon, là, j'ai opéré le même travail à propos de la mort, parce que bon, c'est un des marchés principaux, c'est quand même un des marchés les plus moteurs dans notre économie, la mort. Et surtout pour les États qui nous gouvernent, hein. S'il n'y avait pas les droits de succession, ça serait complètement différent.
C'est l'exploitation de l'homme par l'homme.
Ouais, bon, ça c'est peut-être la seule BD un petit peu politique, mais bon, toujours au 15e degré, quoi. Bon, là, il s'exploite directement, parce que bon, il y en a un qui incruste l'autre carrément, quoi. Bon, c'est la réalité là aussi, mais il se trouve qu'à la fin, chacun se retrouve avec son morbac accroché.
La surveillance, bien sûr.
Oui, bah là, c'est un problème qui doit être sensible. Le personnel ici, là, je, je, oui, je, je, je fais des variations sur les nouvelles les possibilités très pointues de surveillance des musées, où on passe de l'angle mort à 90 degrés dans une encoignure à l'angle à 180. Bon, là, il n'y a pas de doute, on l'a fait. C'est-à-dire en se mettant sur l'extérieur de l'angle de mur. Là, il n'y a pas de doute, je franchis un cap très important dans la muséographie, la muséologie, pardon.
Une autre manière, c'est être emprisonné par un jeu vidéo. L'enfer du jeu est illustré ici, ah puisqu'il y a des menottes.
Toute une série où je propose à Alice, donc Alice de Carole, dans le monde informatique des jeux. Bon, il n'était pas ce qu'il est maintenant, mais enfin, on en était quand même pas loin. Ça c'est des histoires qui remontent à 30 ans. Hein. Alors donc, on était dans les premiers. Bon, alors, on peut se gausser un petit peu du look, mais du look des appareils. Mais enfin bon, j'ai regardé ce qui se faisait. C'est pas tellement différent. Hein. L'autre côté. Bon, bah, là, c'est...
Il y a un problème de surpopulation.
Là, voilà, là, on est encore en pleine science-fiction, parce que bon, là, c'est un groupe de personnes qui réagit par rapport à un automate Big Brotherien là, qui leur dicte des comportements. Voilà, et ce sont deux. Enfin, l'histoire, c'est un couple amoureux qui réagit par rapport à tous ces ordres. Alors il se trouve qu'ils s'appellent tous les deux Buffalo Bill parce qu'il n'y a pas le choix de s'appeler autrement, bon, etc. On est complètement dans un monde orwellien aussi. C'est vrai, là, bon, ton montage, je sais pas, oui, bon, évidemment, t'avais ça qui sous-tendait un petit peu ton choix, mais c'est vrai que t'as bien ciblé les moments où j'étais le plus dans l'univers de la science-fiction. Ben là c'est pas de la science-fiction, enfin, ça c'est de la science-fiction un petit peu à rebours, parce que là bon, par un détail de réalisation de maquette, je me suis retrouvé du jour au lendemain à devoir pondre pour la nouvelle encyclopédie une série de dessins comme ça au débeauté pour boucher un trou de page manquante qui avait été mal calculé par mon compère de maquette. Et donc comme argument, j'ai choisi de dessiner l'après 68. Alors,
il y aura toute une série sur l'après 68. Ouais. Bon, là, c'est encore d'autres problèmes de société. C'est celui de l'expulsion. On va raser un immeuble et quelqu'un ne veut pas partir.
Ça c'est vraiment pour moi le vrai sujet sociologique que je traite un petit peu de front. Hein, y a un gros décalage parce que le personnage qu'on voit. Il va se faire expulser d'un immeuble qu'on est en train de démolir, et lui, dans son univers à lui, il est en train de, c'est un ancien marin, il est en train de passer le Cap Horn, et on voit donc le rapport que peut avoir la destruction de l'immeuble sur lui et surtout sur son milieu, quoi. Et donc c'est une transposition du monde de la mer et du langage de la mer, parce que bon, là aussi c'est j'ai fait du bateau, enfin j'ai eu une période un petit peu aventureuse avec le bateau, et bon donc je voulais utiliser ce vocabulaire là dans l'univers urbain, et je trouve que c'est intéressant d'une manière assez forte d'un point de vue dramatique. Bon, là c'est encore là on voit justement la mise en scène de Big Brother là dans la vignette du bas. Mmh. Avec ce qu'on voit quand on va au cabinet, quand on va dans n'importe quelle grande surface, voilà, c'est ce qu'on voit, quoi. C'est toutes les caméras qui nous.
La science-fiction, c'est un peu ça, c'est une mise en perspective. Hein. On a un avant, on a un après, donc on sait qu'on a un demain. Et je trouve que c'est assez bien vu de prendre.
Le travail du dessinateur, c'est d'arriver à faire une condensation. La plus dense possible d'un sujet, et avec le moins de traits possible. Là c'était mon challenge, j'avais très très peu de temps pour faire cette série, et donc j'ai simplifié au maximum le graphisme, et finalement ça fait quelque chose qui pour moi est une réussite, parce que bon, c'est un des dessins d'une lecture très rapide, très évidente, et qui vont à l'essentiel. Et pour moi, c'est ça le dessin réussi. C'est ce que font les meilleurs dessinateurs politiques.
Alors,
y a... pratique que je n'ai jamais eue. Bon, quand je vois cette série-là, je me suis dit, tiens, peut-être j'aurais pu le faire.
C'est souvent assez autobiographique.
Oui, bah là, c'est...
Mine de rien.
Il se trouve que c'est le lieu pratiquement où je suis né. Et on voit là mon tonton qui est en train de... qui est en train de battre de l'avoine avec une pierre amelée. Enfin, je ne sais pas si beaucoup dans la salle ont connu cet ustensile agricole, mais il avait ça, c'est tout ce qu'il avait pour séparer le grain de la paille. Et bon, le cheval, ce n'était même pas à lui, il était prêté par un voisin. Voilà. Et donc, c'est lui, enfin, c'est mon tonton cycliste qu'on revoit dans l'Avalanche, l'album L'Avalanche, sous les traits du personnage qui s'appelle L'Enfiguro, qu'on voyait tout à l'heure sur un vélo. Voilà, c'est lui, c'est le même.
Ça pourrait être autobiographique aussi, le fait de dessiner en noir et blanc, alors que pratiquement toutes les histoires en bande dessinée se trouvent en couleur.
Oui, alors ça c'était... Ouais, bon, on revient à ça. Bon, ça c'était dans Charlie.
Dans Charlie, oui.
Et tout d'un coup, ils ont eu la possibilité. Enfin, c'était un journal qui était très cheap, hein, donc qui publiait en noir et blanc, d'où l'emploi des trames que j'ai exposé tout à l'heure. Et un jour, ils ont eu suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un feuillet, je crois, c'était 16 pages, il me semble, de couleurs. Alors voilà qui m'aimait beaucoup.
Volinsky,
oui, on l'appelait Volin dans le monde de la BD. C'était vraiment un très très grand. Enfin, je tiens à le redire là. C'était un très très grand personnage de la BD qui manque beaucoup et il me manque beaucoup. Excusez-moi. Je n'aimerais pas avoir une manifestation d'émotion comme ça. Et donc, il m'avait proposé 16 pages en couleur. Et là, je lui avais fait de la peine parce que je m'étais servi de la couleur comme du personnage principal. Et les premières...
Images sont en noir et blanc avec juste une touche.
Oui, non, mais les premières pages devant être consacrées à la couleur, j'avais fait pénétrer mon personnage. Comme ça, j'avais développé l'apparition de mon personnage sur plusieurs pages. Alors, il disait, merde, mais mince, on te paye de la couleur et tu fais juste un poisson rouge dans le dos de ton bonhomme gris. Bon, merde, ça coûte cher la couleur. Mais bon, c'était une mise en scène, évidemment. C'était un procédé narratif quoi, que je revendique complètement. Bon, ben, c'est bien évident que Volin était complètement à fond pour mon histoire, qu'il l'avait adoré.
On voit justement une représentation de masse.
Ouais, bon, ça c'est la seule façon un petit peu narcissique où je me suis représenté. Excusez-moi, c'est dans l'esprit que je reproche à l'esprit français. Moi, je me suis fait, c'est-à-dire que ça, je me suis fait comme ça parce que les commentaires qu'on fait habituellement, que font habituellement les journaleux à mon sujet, bon, maintenant ça n'arrive plus parce qu'il n'y a plus jamais de commentaires de rien. Mais voilà, faut toujours un gag, se croit obligé de faire un gag sur mon nom, quoi. Voilà. Mas, c'est tellement drôle, un mec qui s'appelle Mas. Voilà.
Il y a aussi les discours sur le style de bande dessinée proposé qui est complètement à contre-courant des modes de l'époque.
Oui, bah oui. On est toujours dans le nonsense. Là, le personnage est une pelle mécanique. Bon, à l'époque, j'étais pas encore l'heureux propriétaire d'une pelle mécanique. Maintenant, je le suis devenu. J'en suis à ma troisième, même. Mais bon, voilà, parmi les personnages de cette histoire-là, il y a une pelle mécanique qui s'appelle le monocle, en référence à...
Au film.
Oui, au film, voilà.
Alors donc, par la suite, c'est une des dernières parutions.
Ça, pour ceux qui s'intéressent à moi, ils pourront avoir le loisir de voir les originaux de ça, qui sont pas exactement ce qu'on voit là, parce que là-dessus, il y a eu un travail d'un infographiste avec qui j'ai fait le bouquin, qui était aussi auto-éditeur. J'avais fait ce bouquin pour lui permettre d'accéder à un réseau de distribution. Bon, ça s'est pas fait, mais enfin... voilà. Alors donc, le travail qu'on voit de Trump, c'est pas moi qui l'ai effectué. Bon, les dessins bruts... tels que je les ai faits, ils sont là dans les cadres de l'expo.
Et alors cette fois-ci, ce sont que des questions autour de la physique quantique.
Non, en fait, non. c'est, je m'étais mis sous pression parce que je venais de faire un album concernant la cosmologie et donc accessoirement la physique quantique, parce qu'on peut absolument pas parler de cosmologie si on, si on tâte pas un petit peu de la, enfin, si on parle pas un petit peu de la physique quantique, c'est deux domaines qui sont complètement juxtaposés, t'es d'accord là-dessus. Donc j'étais farci à fond de ces sujets-là après avoir fait Vue d'artiste chez Glénat. En 2012 ou 2011. Voilà. Donc, et j'avais besoin de soulever un peu la soupape, parce que tous les sujets, parce que là, j'avais vraiment potassé mon truc pour justement faire un bulletin, une condensation des sujets qui sont quand même énormes. Parce qu'il faut s'imaginer que faire un album de 62 ou 4 pages sur ces sujets-là, ça demande une condensation fantastique du sujet. Bon, du fait aussi que les textes, la surface de texte qui est disponible est très petite par rapport à l'image. Et que par rapport aussi aux impératifs d'être distractif, ça réduit. Parce que bon, la moitié de l'espace texte, il est quand même au moins la moitié est occupé par des conneries, par des gags. Alors donc, j'étais obligé de faire un énorme travail de condensation de tous ces sujets. Alors donc, j'avais tout ça dans la tête et j'ai fait sauter la vapeur de la cocotte minute en faisant ça. C'est-à-dire en faisant une série, allez, en déconnant à plein nuits sur des sujets bon, divers, soit de cosmologie ou de mécanique quantique. Parce que j'en ai la tête comme ça. Faut pas croire que je suis toute la journée dans ces sujets-là. Moi, j'ai des tas d'autres préoccupations que ça. Je suis pas comme Roland Lehoucq du tout. Mes préoccupations, c'est des préoccupations plus ordinaires.
On va peut-être parler aussi de bande dessinée. Quelles sont les influences de bande dessinée? T'en lisais beaucoup?
Là, j'ai parlé de l'influence de Winston Mackey, qui a été une influence très forte dans justement mon rapport à l'onirique. Hein, voilà. Qui est perceptible dans toute la période Charlie, justement tous les extraits que tu as montrés là, il persiste une influence très forte de Winston Mackey. Bon, il y avait aussi Copy qui était quelqu'un qui m'avait énormément influencé, mais à la période un peu d'avant. Ça, c'est un personnage que j'avais créé au Beaux-Arts. Je faisais des petits strips comme ça. J'en faisais des quantités et des quantités pour faire rire les copains et surtout les copines. Et voilà, ça marchait bien parce que bon, j'avais pas de décapotable pour me rendre intéressant. Alors je me rendais intéressant comme ça en faisant des gags au bistrot. Et bon, ça marchait bien. Et donc j'avais créé ce personnage du roi de Le Monde qui se positionnait sur un trône, un trône qui en fait est un décor complètement polyvalent. Voilà. Là, dans cette série-là, qui a été reprise à l'association, publiée par l'association, on voit tout ce jeu. C'est complètement un jeu pataphysicien.
Il va falloir accélérer un petit peu.
Je m'explique, un jeu pataphysicien, ça veut dire que c'est un jeu qui comporte une règle très, très, très carrée, quoi, très, très contraignante. Et là, la règle contraignante, c'est de arriver à faire se passer n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, toujours en utilisant le même décor et le personnage toujours assis au même endroit. Voilà. Sans se faire intervenir aucun, ni personnage secondaire, ni rien du tout. C'est vraiment les moyens les plus épurés qu'on puisse trouver. Bon, j'aurais pu n'utiliser que le siège tout seul, mais enfin bon, c'était un peu hard.
Alors, on est obligé d'accélérer un petit peu. Je voulais venir à
voilà,
un autre sujet.
Références.
Voilà, c'est toutes
voilà,
les références.
Voilà, ce que je voudrais faire marquer, ce sont des deux personnages que j'ai mis en scène dans mon voyage dans le cosmos là, de vue d'artiste. Et j'ai fait apparaître les deux Dupont en train de se déplacer. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'à l'époque, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais ils se déplaçaient exactement comme va se déplacer le petit vaisseau qui va aller rejoindre Proxima du Centaure, c'est-à-dire avec une voile solaire. Et je trouvais que c'était pas mal comme intuition, quoi, parce que je veux dire, c'est exactement comme ça que ça va marcher. Et ce qui est complètement à contre-courant de toutes les fusées. Super! super sophistiqués qu'on voit dans les albums de BD.
Alors, d'un autre côté, on parle beaucoup d'art, mais je voulais... Il faut vraiment aller plus vite. Il nous reste 2 minutes.
Il reste 2 minutes.
Et c'était pour parler, bon, d'abord, du travail de trame, de gravure.
Ouais, bah ça, oui. Pour cet album-là, voilà. Qui s'appelle La Mare aux Pirates, je me suis fabriqué toute une documentation de trame, comme ça, à la fois à partir de gravures et je redécoupais en utilisant la photocopie à toutes les échelles, en utilisant les inversements, etc., d'images. Et donc j'ai vraiment je suis rentré vraiment dans le monde de l'image de synthèse avant la lettre, quoi, mais d'une façon manuelle. Bon, ça c'est des peintures qui, voilà, bon, c'est pour monter un petit peu mes champs de travail. Alors je peins un peu. Voilà.
Et il y a aussi de la sculpture.
Ça, c'est de la gravure.
Qui essaye,
c'est de la sérigraphie, ça, c'est des sculptures. Oui.
Qui essaye de mettre peut-être. Il y a un rapport entre la 3D et la 2D.
Ouais, ben ça, c'est trop long. C'est trop long. Enfin, disons que c'est toujours ma problématique de travailler sur la quatrième dimension, qui est la temporalité. Alors, comment. Là j'ai parlé tout à l'heure. Comment je travaillais sur la temporalité au niveau de la 2D de la BD, hein, parce que la BD c'est de la 2D, la sculpture c'est de la 3D. Bon, là je travaille sur cette même problématique de la temporalité en 3D. Donc en jouant avec les procédés qui sont utilisés aussi dans la 2D, c'est-à-dire tout le champ du vocabulaire de ce qu'on appelle les emanata. Les emanata, ce sont les petits aiguilles que les dessinateurs font pour exprimer la vitesse. Quand vous voyez une image où il y a 3 traits comme ça qui se rejoignent avec un petit nuage de fumée derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est parti sur la gauche. Si ça part sur la gauche, c'est parti sur la gauche, alors qu'on ne voit pas le personnage. Simplement, c'est la virtualité d'une dynamique. Bon, il y a certains dessinateurs, comme Jacovitti, qui surutilisaient ce genre de vocabulaire. Voilà.
Bon, je crois qu'on
cette époque-là, ça se faisait beaucoup. Maintenant, ça s'est un peu perdu. On est revenu à un mode graphique qui utilise beaucoup moins ces artifices de la temporalité comme ça direct sur l'image.
Bon, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour. De toute manière, on est obligé de s'arrêter là. Vous pourrez retrouver bien sûr Francis Mas à la librairie où il dédicacera donc tous ses albums. Et puis ben, on attend aussi les prochains. Il y a encore des projets. En tout cas,
oui,
merci beaucoup.
Oui, bien sûr. Merci à tous.